Chapitre 35. Veritas Erum. Harry sentit qu'il atterrissait à plat ventre, le nez dans l'herbe, dont l'odeur lui emplissait les narines. Il avait fermé les yeux pendant que le porte-au-loin le transportait et il les garda fermés. Il resta immobile, le souffle coupé. Il avait tellement le tourni que le sol lui paraissait tangué comme le pont d'un navire. Pour essayer de dissiper cette sensation, il se cramponna au trophée qu'il tenait toujours d'une main et au corps de Cédric, dont il serrait le poignet de son autre main. Il lui semblait que s'il lâchait l'un ou l'autre, il allait sombrer dans les ténèbres qui enveloppaient son cerveau. Le choc, l'épuisement l'empêchaient de bouger. Respirant l'odeur de l'herbe, il attendait. Il attendait que quelqu'un s'occupe de lui, que quelque chose se passe. Et sentait pendant tout ce temps sa cicatrice brûler d'une douleur lancinante. Soudain, un torrent de sons l'assourdit, un mélange confus de voix, de bruits, de pas, de cris qui venaient de partout, lui envahit la tête. Il demeura immobile, le visage crispé sous le choc de ce vacarme, comme s'il s'agissait d'un cauchemar qui allait se terminer. Puis deux mains le saisirent brusquement et le retournèrent sur le dos.
« Harry ! Harry !»
Il ouvrit les yeux. Il vit le ciel étoilé et la silhouette d'Albus Dumbledore accroupie à côté de lui. Une foule d'ombres noires l'entourait de toutes parts. Harry sentait le sol vibrer sous leurs pas. Il se trouvait à l'extérieur du labyrinthe. Il voyait les tribunes qui s'élevaient sous les étoiles et des silhouettes bouger le long des bancs. Harry lâcha le trophée, mais ses doigts se resserrèrent autour du poignet de Cédric. De l'autre main, il saisit le bras de Dumbledore dont le visage devenait flou par instant, comme s'il n'arrivait pas à fixer son regard sur lui. « Il est revenu !» murmura Harry. « Voldemort est revenu !»«
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»
Le visage de Cornelius Fudge apparut à l'envers au-dessus de Harry. Il paraissait livide, effaré.
« Mon Dieu, Diggory !» murmura-t-il. « Dumbledore, il est mort !»
Ces paroles se répandirent, répétées par les ombres qui se pressaient autour d'eux dans les murmures d'abord, puis des cris, des hurlements qui s'élevèrent dans la nuit. « Il est mort !
Il est mort ! Il est mort ! Cédric Diggory est mort !»« Harry, lâche-le !» dit la voix de Fudge.
Harry sentait des doigts qui essayaient de desserrer son étreinte, mais il refusait de lâcher prise. Puis le visage de Dumbledore, toujours flou, comme entouré de brume, se pencha plus près.
« Harry, tu ne peux plus l'aider maintenant. C'est fini, hein ? Lâche-le. »«
Il voulait que je le ramène, »
murmura Harry. Il lui semblait important de donner cette explication.
« Cédric voulait que je le ramène auprès de ses parents. »
« Ça y est, Harry, ça y est, lâche-le maintenant. »
Dumbledore se pencha encore et avec une force extraordinaire pour un homme aussi mince et aussi âgé, il souleva Harry et le remit debout. Harry chancela, le sang battait à ses tempes. Sa jambe blessée lui faisait à nouveau mal et refusait de supporter son poids. Les silhouettes sombres se bousculèrent pour s'approcher le plus près possible, se pressant en cercle autour de lui.
« Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a ? Diggory est mort. »
« Il faut l'emmener à l'infirmerie !» dit Fudge d'une voix forte. « Il est blessé, il est malade. Dumbledore, les parents de Diggory, ils sont là, dans les tribunes. Je m'occupe de Harry. Allez, Dumbledore, je vais l'emmener. »« Non, je préférerais que... »« Dumbledore, Amos Diggory arrive en courant. Vous ne pensez pas que vous devriez lui dire avant qu'il voie lui-même ?»« Harry, reste ici !»
Des filles criaient, sanglotaient, tout vacillait étrangement sous les yeux de Harry.
« Ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Allez, viens, on va à l'infirmerie, » dit Fudge.
« Dumbledore m'a dit de rester, » répondit Harry d'une voix pâteuse. La douleur lancinante de sa cicatrice lui donnait envie de vomir. Tout devenait plus flou que jamais autour de lui.
« T'as besoin de t'allonger, allez, viens. »
Quelqu'un de plus grand, de plus fort que lui l'emmena, le traînant, le portant à moitié au milieu de la foule apeurée. Il entendait des exclamations, des cris, des hurlements, tandis que l'homme qui le soutenait se frayait un chemin en direction du château. Ils traversèrent le parc, passant devant le lac et le vaisseau de Durmstrang, et Harry n'entendit bientôt plus rien que la respiration bruyante de l'homme qui l'aidait à marcher.
« Qu'est-ce qui s'est passé, Harry ? »
lui demanda-t-il enfin en le soulevant pour lui faire monter les marches de pierre.
C'était Maugrey Folleuil.
« Le trophée était à un port au loin, » répondit Harry. « Il m'a transporté avec Cédric dans un cimetière. Voldemort était là. Lord Voldemort. Ils montèrent l'escalier de marbre.
Le seigneur des ténèbres était là? Que s'est-il passé ensuite?
Il a tué Cédric. Tué Cédric.
Et ensuite?
Ils avançaient le long du couloir. Il a fabriqué une potion pour retrouver son corps.
Le seigneur des ténèbres a retrouvé son corps. Il est revenu.
Et les mangemorts sont arrivés. Et puis nous nous sommes battus en duel.
Tu t'es battu en duel avec le seigneur des ténèbres?
Je me suis enfui. Ma baguette a fait quelque chose de bizarre. J'ai vu ma mère et mon père. Ils sont sortis de sa baguette magique.
Entre, Harry, entre. Et assieds-toi. Ça va aller mieux maintenant. Bois ça.
Harry entendit une clé tourner dans une serrure et sentit qu'on lui mettait un gobelet dans les mains.
« Bois, tu te sentiras mieux. Et maintenant, il faut absolument que je sache ce qui s'est passé. »
Maugrey aida Harry à tenir le gobelet et à boire son contenu. Il toussa en sentant un liquide poivré lui brûler la gorge. Le bureau de Maugrey lui apparut alors plus nettement, ainsi que Maugrey lui-même. Il semblait aussi pâle que Fudge, et ses deux yeux fixaient Harry sans ciller.
« Voldemort est de retour, Harry. Tu es sûr qu'il est revenu? Comment a-t-il fait ?»«
Il a pris quelque chose dans la tombe de son père. Quelque chose à queue de verre et quelque chose à moi, » répondit Harry. Il sentait son esprit devenir plus clair. Sa cicatrice lui faisait moins mal et il parvenait à voir distinctement le visage de Maugrey, bien que le bureau fût plongé dans la pénombre. Des cris s'élevaient encore dans le stade de Quidditch.
« Qu'est-ce que t'as pris, le seigneur des ténèbres ?»
demanda Maugrey.
« Du sang !» répondit Harry en levant le bras. Sa manche était déchirée, là où Cutvert avait enfoncé son poignard.
Maugrey laissa échapper un long souffle rauque.
« Oh ! Oh, et les mangemorts, ils sont revenus !»
répondit Harry. Ils étaient nombreux.
« Comment s'est-il comporté avec eux ?»
demanda Maugrey à voix basse.
« Est-ce qu'il leur a pardonné ?»
Mais brusquement, Harry se souvint. Il aurait dû le dire à Dumbledore, le dire tout de suite. « Il y a un mange-mort à Poudlard, c'est lui qui a mis mon nom dans la coupe de feu, lui qui s'est arrangé pour que je remporte le tournoi. »
Harry essaya de se lever, mais Maugrey l'obligea à se rasseoir.
« Je sais qui est le mange-mort, » dit-il.
« Karkaroff !» s'exclama Harry. « Où est-il? Vous l'avez attrapé? Vous l'avez fait prisonnier ?»«
Karkaroff !» répéta Maugrey avec un rire étrange. « Karkaroff a pris la fuite cette nuit lorsqu'il a senti la marque lui brûler le bras. Il a trahi trop de fidèles partisans du seigneur des ténèbres pour avoir envie de le revoir. » Mais je ne pense pas qu'il puisse aller bien loin. Non, le seigneur des ténèbres sait comment retrouver ses ennemis.
Karkaroff s'est enfui. Mais dans ce cas, c'est pas lui qui a déposé mon nom dans la coupe. Hein.
Non, répondit Maugrey, non. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, non. C'est moi qui l'ai fait.
Harry l'entendit. Mais il lui fut impossible de le croire.
« Non, non, c'est pas vous, » dit-il. « Vous n'avez pas fait ça. Vous ne pouvez pas. »«
Je peux t'affirmer que c'est moi, »
répéta Maugrey. Son œil magique pivota et se posa sur la porte. Harry comprit qu'il voulait s'assurer que personne ne se cachait derrière. En même temps, Maugrey sortit sa baguette magique et la pointa sur Harry.
« Alors... » Il leur a pardonné. Il a pardonné aux mange-morts restés en liberté, ceux qui ont échappé à Azkaban.
Quoi ?
S'écria Harry. Il regardait la baguette magique que Maugrey pointait sur lui.
C'était une mauvaise plaisanterie. Ça ne pouvait être que cela.
Je t'ai demandé s'il a pardonné aux canailles qui n'ont jamais essayé de le retrouver. Ces traîtres, Ce lâche qui n'était même pas capable d'affronter Azkaban pour lui, ces immondes crapules qui avaient assez de courage pour s'amuser avec des moldus, le visage masqué, mais qui ont pris la fuite quand j'ai fait apparaître la marque de ténèbres dans le ciel.
Vous avez fait apparaître? Mais de quoi parlez-vous?
Je te l'ai dit, Harry. Je te l'ai dit. Il y a une chose que je déteste par-dessus tout. C'est un mange mort en liberté. Ils ont tourné le dos à mon maître quand il avait le plus besoin d'eux. Je m'attendais à ce qu'ils les punissent. Je m'attendais à ce qu'ils leur infligent un terrible châtiment. Dis-moi, Harry, est-ce qu'il leur a fait mal?
Un sourire de démon se dessina soudain sur le visage de Maugrey.
Est-ce qu'il leur a dit que moi seul, je lui suis resté fidèle quand j'étais prêt à prendre tous les risques pour lui apporter ce qu'il désirait le plus. Toi,
vous n'avez pas pu. Ça ne peut pas être vous.
Si, c'est moi. C'est moi qui ai mis ton nom dans la coupe de feu en faisant croire que tu venais d'une autre école. Moi qui ai terrorisé tous ceux qui auraient pu essayer de te faire du mal ou de t'empêcher de gagner le tournoi. Moi encore, qui ai incité Hagrid à te montrer les dragons. Moi qui t'ai aidé à découvrir le seul moyen par lequel tu pouvais vaincre le magier à pointe. Tout ça, c'est moi.
L'œil magique de Maugrey avait cessé de regarder la porte et s'était fixé sur Harry. Sa bouche de travers souriait largement d'un sourire narquois.
Ça n'a pas été facile, Harry, de te guider à travers toutes ces tâches sans éveiller le soupçon. J'ai dû recourir à toute la ruse dont je suis capable pour qu'on ne puisse reconnaître ma signature dans ton succès. Dumbledore se serait douté de quelque chose si tu avais tout réussi trop facilement. Du moment que tu entrais dans ce labyrinthe, de préférence avec une bonne avance, je savais que j'aurais une chance de me débarrasser des autres champions et de te laisser la voie libre pour gagner. J'ai également dû combattre ta stupidité. La deuxième tâche, oui, c'est là que j'ai eu les plus grandes craintes de te voir échouer. Je t'ai surveillé, Potter. Je savais que tu n'avais pas résolu l'énigme de l'œuf. Et je t'ai donc donné une piste.
C'est pas vrai. J'ai été aidé par Cédric.
Eh oui, et qui a dit à Cédric d'ouvrir l'œuf sous l'eau? Moi, j'étais sûr qu'il te communiquerait l'information. Les gens loyaux sont tellement faciles à manipuler, Potter. Je savais que Cédric voudrait te remercier de l'avoir prévenu pour les dragons. C'est ce qu'il a fait. Mais même à ce moment-là, Potter, même à ce moment-là, tu semblais aller droit à l'échec. Oui, je te surveillais sans cesse. Tout ce temps, passé à la bibliothèque, tu n'as donc pas compris que le livre dont tu avais besoin se trouvait dans ton dortoir. Je m'étais arrangé pour l'y introduire le plus tôt possible. Je l'avais donné au jeune homme du bas, tu te souviens, propriété des plantes aquatiques magiques du bassin méditerranéen. Bah. Et tu avais eu l'idée d'y jeter un coup d'œil, hein? Tu aurais trouvé tout ce qui concerne la branchiflore. Je pensais que tu demanderais à tout le monde de t'aider. L'homme du bas t'aurait tout de suite renseigné. Mais tu ne lui as rien demandé. Rien demandé. Tu as un orgueil, hein, et un goût de l'indépendance qui aurait pu tout gâcher. Alors que pouvais-je faire? Te communiquer le renseignement par l'intermédiaire d'une autre source innocente. Le soir du bal, tu m'avais dit qu'un elfe de maison du nom de Dobby t'avait offert un cadeau de Noël. J'ai fait venir cet elfe dans la salle des professeurs pour qu'il vienne chercher des robes à nettoyer. Et pendant qu'il était là, j'ai demandé à haute et intelligible voix au professeur McGonagall si, à son avis, Potter aurait l'idée d'utiliser de la branchiflore. Et ton ami l'elfe a couru droit dans l'armoire de Rogue y chercher la plante qu'il s'est dépêché de t'apporter.
La baguette magique de Maugret était toujours pointée sur le cœur de Harry. Derrière son épaule, des silhouettes indécises bougeaient dans la glace à l'ennemi accroché au mur.
« Tu es resté si longtemps dans le lac, Potter, que je me suis demandé si tu n'étais pas noyé. Mais heureusement, Dumbledore a pris ton idiotie pour de la noblesse et t'a donné une excellente note à cause de ça. Tu ne vas pas savoir à quel point j'ai été soulagé. » Quand tu es entré dans le labyrinthe, tu as eu beaucoup moins de difficultés que prévu. C'est parce que j'ai patrouillé tout autour en supprimant à coups de sortilège tous les obstacles que je voyais à travers la haie d'enceinte. J'ai stupéfixé Fleur de la Cour quand elle est passée devant moi. J'ai soumis Krum à l'Imperium pour l'obliger à lancer un sortilège dans l'oris sur Digori, ce qui te laissait le chemin libre jusqu'au trophée. Harry regarda Maugret d'un air stupéfait. Il n'arrivait pas à le croire. Le célèbre Aurore, ami de Dumbledore, celui qui avait capturé tant de mange-morts. Mais non, ça n'avait pas de sens, pas de sens du tout. Les formes qui apparaissaient dans la glace à l'ennemi devenaient plus précises. Par-dessus l'épaule de Maugret, Harry vit nettement se dessiner trois silhouettes qui s'approchaient de plus en plus près. Et Maugret ne les avait pas remarquées. Son œil magique était fixé sur Harry. Le seigneur des ténèbres n'a pas réussi à te tuer, Potter. Et pourtant, il l'aurait tellement désiré. Imagine ce que sera ma récompense lorsqu'il apprendra que je l'ai fait à sa place. Je te donne en lui, toi dont il avait le plus besoin pour renaître. « Maintenant, je vais te tuer pour qu'il n'ait pas à le faire lui-même. Je recevrai pour cela plus d'honneur que tous les autres mange-morts. Je serai le plus aimé, le plus proche de ses fidèles, plus proche comme fils. »
L'œil normal de Maugret était exorbité, son œil magique fixé sur Harry. La porte était verrouillée et Harry savait qu'il n'arriverait jamais à saisir sa baguette à temps. À présent, Maugret paraissait en proie à une véritable crise de démence. Dominant Harry de toute sa hauteur, il le regardait d'un air mauvais.
« Le seigneur des ténèbres et moi avons beaucoup de choses en commun. Nous avons été tous les deux déçus par nos pères, très déçus, et nous avons tous les deux subi le déshonneur de recevoir le même nom que ce père détesté. Mais nous avons aussi eu tous les deux le plaisir, ah oui, le grand plaisir de tuer nos pères. » Pour assurer l'ascension durable de l'ordre des ténèbres.
Vous êtes fou, Thierry. Il ne pouvait plus se taire. Complètement fou.
Moi, fou.
La voix de Maugret était devenue plus aiguë, comme s'il n'arrivait plus à la contrôler.
C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir qui est fou, hein, maintenant. Maintenant que le seigneur des ténèbres a revenu. Ah oui, que je suis à ses côtés. Il est revenu, Harry Potter. Tu n'as pas réussi à le vaincre. Et à présent, c'est moi qui vais te vaincre.
Maugret leva sa baguette. Il ouvrit la bouche. Et Harry plongea la main dans sa poche.
Stupéfix.
Il y eut un éclair rouge aveuglant, tandis que dans un grand fracas, la porte du bureau volait en éclats. Maugret fut projeté en arrière et tomba sur le sol, à la place où il était assis. Un instant auparavant, Harry vit surgir dans la glace à l'ennemi les reflets d'Albus Dumbledore, du professeur Rogue et du professeur McGonagall qui le regardaient. Il se retourna. Tous trois se tenaient dans l'embrasure de la porte. Dumbledore au premier rang, sa baguette tendue en avant. Pour la première fois, Harry comprit pourquoi on disait qu'Albus Dumbledore était le seul sorcier que Voldemort eût jamais craint. L'expression de Dumbledore, le regard fixé sur la silhouette inerte de Maugret était plus terrifiante que tout ce que Harry aurait pu imaginer. Il n'y avait plus de sourire bienveillant sur son visage et ses yeux ne pétillaient plus de malice derrière ses lunettes en demi-lune. Une fureur glacée animait chaque ride de son visage et une impression de puissance émanait de lui comme s'il avait été entouré d'un halo de chaleur brûlante. Il pénétra dans le bureau, glissa un pied sous le corps inconscient de Maugret qui était tombé à plat ventre et le retourna sur le dos pour qu'on puisse voir son visage. Rock le suivit et regarda dans la glace à l'ennemi où sa propre image, le regard flamboyant fixé sur le centre de la pièce, était toujours visible. Le professeur McGonagall s'avança droit sur Harry. « Venez, Potter. » La mince ligne que dessinaient ses lèvres s'était mise à trembler comme si elle était sur le point de pleurer. « Venez, venez à l'infirmerie. »«
Non !»
dit Dumbledore.
Dumbledore, il devrait, regardez-le, il a été suffisamment éprouvé ce soir.
« Il doit rester, Minerva !»
répliqua Dumbledore d'un ton abrupt.
« Harry a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il est nécessaire de comprendre la réalité avant de pouvoir l'accepter. Seule l'acceptation de la réalité peut permettre la guérison. Il faut qu'il sache qui lui a imposé l'épreuve qu'il a subie ce soir et pourquoi.
« Maugrey ! » dit Harry, qui semblait toujours aussi incrédule. « Mais comment Maugrey a-t-il pu ?»«
Cet homme n'est pas Alastor Maugrey, » dit Dumbledore d'une voix très calme. « Tu n'as jamais vu Alastor Maugrey. Le véritable Maugrey ne t'aurait pas éloigné de moi après ce qui s'est passé ce soir. Dès le moment où je l'ai vu t'emmener, j'ai compris. Et je vous ai suivi. »
Dumbledore se pencha sur la forme inerte de Maugrey et prit dans la poche de sa robe sa flasque et un trousseau de clés. Puis il se tourna vers Rogue et McGonagall.
« C'est vrai, s'il vous plaît. » « Allez me chercher la potion de vérité la plus puissante que vous possédiez. Puis descendez aux cuisines et ramenez l'elfe de maison qui s'appelle Winky. Minerva, veuillez avoir l'obligeance de vous rendre chez Hagrid, où vous verrez un gros chien noir assis dans le jardin aux citrouilles. Emmenez le chien dans mon bureau. Dites-lui que je l'y rejoindrai bientôt. Et revenez ici. »
Rogue et McGonagall trouvèrent sans doute ces instructions un peu bizarres, mais ils ne laissaient rien paraître de leur étonnement. Tous deux tournèrent aussitôt les talons et sortirent du bureau. Dumbledore s'approcha ensuite de la malle aux 7 serrures, glissa la première clé du trousseau de Maugrey dans la première serrure et l'ouvrit. La malle était remplie de livres de sorcellerie. Dumbledore la referma, mit la deuxième clé dans la deuxième serrure et rouvrit la malle. Les livres de sorcellerie avaient disparu. Cette fois, la malle contenait des scrutoscopes cassés, des feuilles de parchemin, des plumes et quelque chose qui ressemblait à une cape d'invisibilité. Stupéfait, Harry regarda Dumbledore glisser la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième clé dans leurs serrures respectives. Chaque fois, il rouvrait la malle et chaque fois, son contenu changeait. Enfin, il enfonça la septième clé dans la septième serrure, souleva une septième fois le couvercle de la malle et Harry laissa alors échapper une exclamation de stupeur. Il voyait à présent une sorte de fosse, comme une pièce souterraine qui s'enfonçait à 3 mètres au-dessous du sol et dans laquelle était étendu le véritable Maugrey Folleuil. Il paraissait profondément endormi et plus mince. De toute évidence, il y avait longtemps qu'il n'avait rien mangé. Sa jambe de bois avait disparu, l'orbite de son œil magique semblait vide sous la paupière, et ses cheveux grisonnants étaient clairsemés comme si on lui en avait arraché plusieurs touffes. Abasourdi, Harry regardait alternativement le Maugrey qui dormait dans la malle et celui qui était étendu, inconscient, sur le sol du bureau. Dumbledore entra dans la malle, se laissa tomber en douceur à côté du Maugrey endormi et se pencha sur lui.
« Stupéfixé, soumis au sortilège de l'Imperium, il est dans un grand état de faiblesse. Heureusement, il avait besoin de le garder en vie. Harry, envoie-moi la cape de l'imposteur. Alastor est glacé. Il faudra que Madame Pomfraîche l'examine. Mais il n'est pas en danger immédiat. »
Harry lui donna la cape. Dumbledore en enveloppa soigneusement Maugrey et ressortit de la malle. Puis il prit la flasque qu'il avait posée sur le bureau, dévissa le bouchon et la retourna. Un liquide épais et gluant coula sur le sol.
« C'est du polynectar, Harry. Tu vois, c'était tout simple et très ingénieux, car Maugrey ne boit jamais rien d'autre que ce qu'il y a dans sa flasque. Il est bien connu pour ça. Bien entendu, l'imposteur avait besoin de garder le vrai Maugrey auprès de lui pour pouvoir continuer à préparer sa potion. » « Regarde ses cheveux. »
Dumbledore se tourna vers le vrai Maugrey toujours endormi dans la malle.
« L'imposteur lui en a coupé tout au long de l'année, tu vois.
Il lui en manque à plusieurs endroits. Mais je crois que dans la précipitation de cette soirée, notre faux Maugret a dû oublier de prendre son polynectar aussi souvent qu'il l'aurait fallu. Une fois par heure. Nous allons bientôt voir ça.
Dumbledore tira la chaise qui se trouvait derrière le bureau et s'y assit, les yeux fixés sur le faux Maugret, toujours inconscient. Harry l'observait également. Les minutes passèrent en silence. Enfin, Harry vit le visage du faux Maugret se transformer peu à peu. Ses cicatrices disparurent, sa peau devint plus lisse, le nez mutilé se reconstitua en un nez entier et plus petit. La longue crinière de cheveux gris se rétracta et prit une couleur paille. La jambe de bois tomba avec bruit sur le sol et une jambe normale apparut à sa place. Un instant plus tard, l'œil magique sauta de son orbite, remplacé par un œil réel, et roula par terre en continuant de pivoter en tous sens. L'homme, qui était à présent étendu sur le sol, avait le teint pâle, des taches de rousseur et une houppe de cheveux blonds. Harry le reconnut aussitôt. Il l'avait déjà vu dans la pancine de Dumbledore. Il avait vu les détraqueurs le traîner hors du tribunal, tandis qu'il essayait, d'une voix suppliante, de convaincre M. Croupton de son innocence. Mais maintenant, il avait des rides autour des yeux et paraissait beaucoup plus vieux. Des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir. Rogue était de retour. Winky sur ses talons, le professeur McGonagall les suivait de près. « Croupton !» s'exclama Rogue en se figeant sur le seuil de la porte. « Barty Croupton !»« Mon Dieu !» s'écria le professeur McGonagall en s'immobilisant à son tour, les yeux écarquillés. Sale, échevelé, Winky passa la tête derrière les jambes de Rogue et regarda elle aussi. La bouche grande ouverte, elle poussa alors un cri perçant.
« Maître Barty ! Maître Barty, qu'est-ce que vous faites ici ?»
Elle se jeta sur la poitrine du jeune homme.
« Vous l'avez tué ! Vous l'avez tué ! Vous avez tué le fils de mon maître !»
« Il est simplement stupéfixé, Winky !» dit Dumbledore. « Écarte-toi, s'il te plaît !»« Severus, vous avez la potion ?»
Rogue lui tendit un flacon en verre rempli d'un liquide clair comme de l'eau. C'était le Veritaserum qu'il avait un jour menacé Harry d'utiliser contre lui. Dumbledore se leva de sa chaise, se pencha sur l'homme étendu par terre et le mit en position assise, le dos contre le mur, sous la glace de l'ennemi dans laquelle les reflets de Dumbledore, Rogue et McGonagall continuaient de les observer avec des yeux flamboyants. Winky était restée à genoux. Tremblant de tout son corps, elle se cachait le visage dans les mains. Dumbledore ouvrit la bouche de l'homme inconscient et y versa trois gouttes du liquide, puis il pointa sa baguette sur lui et dit
« Enervatum !»
Le fils de M. Croupton ouvrit les yeux. Les traits de son visage étaient flasques, son regard brouillé. Dumbledore s'agenouilla devant lui pour pouvoir le regarder bien en face.
« Vous m'entendez ?»
demanda-t-il à voix basse. L'homme battit des paupières.
« Oui, » murmura-t-il.
« Je voudrais que vous nous disiez comment il se fait que vous soyez ici, »
dit Dumbledore sans élever la voix.
« Comment vous êtes-vous enfui d'Azkaban ?»
Croupton prit une profonde inspiration, le corps parcouru d'un frémissement. Puis il se mit à parler d'une voix monocorde.
« C'est ma mère qui m'a sauvé la vie. Elle savait qu'elle allait bientôt mourir et l'a demandé à mon père comme dernière faveur de m'arracher à ma prison. Il l'aimait profondément. L'amour qu'il ne m'avait jamais donné, il l'éprouvait pour elle. Il a fini par l'accepter. » Ils sont venus me voir à Azkaban et m'ont donné à boire une gorgée de polynectar qui contenait un cheveu de ma mère. Elle-même en a bu une autre gorgée qui, cette fois, contenait un de mes cheveux. Nous avons donc échangé nos apparences.
Winky, toujours tremblante, hocha vigoureusement la tête.
Ne dites rien de plus, maître Barty, ne dites rien de plus ou votre père aura des ennuis.
Mais Croupton prit une nouvelle inspiration et continua à parler du même ton monocorde.
Les détraqueurs sont aveugles. Ils ont senti une personne saine et une personne mourante entrer à Azkaban. Ils ont senti une personne saine et une autre mourante en sortir. J'avais mis les vêtements de ma mère pour que les autres prisonniers ne se doutent de rien en me voyant passer devant leur cellule, et c'est ainsi que mon père m'a fait évader. Ma mère est morte peu de temps après à Azkaban. Elle avait pris soin de boire du polynectar jusqu'à la fin et on l'a enterrée sous mon nom et sous mon apparence. Tout le monde pensait qu'elle était moi.
Croupton battit à nouveau les paupières.
Et qu'est-ce que votre père a fait de vous après vous avoir amené à la maison ?
Demanda Dumbledore. Il a fait croire que ma mère était morte dans son lit. Et un enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité. Mais le cercueil était vide. C'est notre elfe de maison qui m'a soigné et m'a rendu la santé. Ensuite, il a fallu me cacher et me surveiller. Mon père a eu recours à divers sortilèges pour me faire obéir. Après avoir retrouvé mes forces, je ne pensais plus qu'à rejoindre mon maître, à retourner auprès de lui pour me mettre à son service.
« Comment a fait votre père pour vous faire obéir ?»
demanda Dumbledore.
« Il m'a soumis au sortilège de l'Imperium, » répondit Croupton.
« Maître Barty, Maître Barty !»
sanglota Winky, le visage dans les mains.
« Il ne faut pas dire ça. On va avoir des ennuis, monsieur. »«
Quelqu'un a-t-il jamais découvert que vous étiez toujours vivant ?»
demanda Dumbledore.
« Quelqu'un était-il au courant à part votre père et l'elfe de maison ?»«
Oui, » répondit Croupton en battant à nouveau des paupières. « Une sorcière qui travaillait dans le service de mon père, Bertha Jorkins. Un jour, elle est venue à la maison pour faire signer des papiers à mon père. Il n'était pas là, et Winky l'a fait entrer, puis elle est retournée auprès de moi dans la cuisine. » Mais Bertha Jorkins a entendu Winky me parler, elle est allée voir ce qui se passait. Elle en a entendu suffisamment pour deviner qui se cachait sous la cape d'invisibilité. Lorsque mon père est rentré à la maison, elle lui a aussitôt parlé de ce qu'elle venait de découvrir. Et il lui a infligé un très puissant sortilège d'amnésie pour lui faire tout oublier. Si puissant que sa mémoire a subi des dommages irréversibles.
Pourquoi elle est venue fouiller dans les affaires de mon maître ?
Sanglota Winky.
Pourquoi elle ne nous a pas laissés tranquilles ?
Parlez-moi de la Coupe du Monde de Quidditch,
dit Dumbledore. Winky a persuadé mon père de m'y laisser aller, répondit Croupton de la même voix monotone. Elle lui en a parlé pendant des mois. Depuis des années, je n'avais pas quitté la maison. J'avais toujours beaucoup aimé le Quidditch. « Donnez-lui la permission d'y aller, » disait-elle. « Il sera caché sous sa cape d'invisibilité. Il pourra regarder le match. Laissez-le respirer un peu d'air frais pour une fois. » Il disait que c'était ce que ma mère aurait voulu, qu'elle était morte pour que je puisse être libre. Elle ne m'avait pas sauvé pour que je passe ma vie enfermée. Finalement, il a accepté. Tout a été méticuleusement organisé. Dans la journée, mon père nous a emmenés, moi et Winky, dans la loge officielle. Winky devait dire qu'elle gardait une place pour mon père et moi. Je resterai assis à côté d'elle, invisible. Quand tout le monde aurait quitté la loge, nous sortirions à notre tour. Winky aurait l'air d'être seul et personne ne se douterait de rien. Mais Winky ne savait pas que je devenais de plus en plus fort. J'avais commencé à lutter contre l'Imperium que mon père m'imposait. Par moments, je retrouvais ma vraie personnalité. Pendant de brèves périodes, je parvenais à échapper à son contrôle. C'est ce qui est arrivé là-bas, dans la loge officielle. J'avais l'impression de m'éveiller d'un profond sommeil. J'étais dehors, en public, en plein milieu du match. Et j'ai vu une baguette magique qui dépassait de la poche du garçon assis devant moi. Je n'avais plus jamais eu le droit de toucher une baguette depuis qu'on m'avait envoyé à Azkaban. Alors j'ai volé celle-là. Winky n'avait rien vu. Elle a tellement peur de l'altitude qu'elle se cachait la tête dans les mains.
« Maître Barty, vous êtes un méchant garçon !»
murmura Winky. Des larmes coulaient entre ses doigts.
« Donc, vous avez pris la baguette magique, » dit Dumbledore. « Et qu'est-ce que vous en avez fait ?»«
Nous sommes retournés sous la tente, » répondit Croupton. « Et c'est là qu'on les a entendus. On a entendu les mangements. Ceux qui n'étaient jamais allés à Azkaban. Ceux qui n'avaient jamais souffert pour mon maître. Ils lui avaient tourné le dos. Mais eux n'étaient pas réduits à l'état d'esclaves comme moi. Eux, ils étaient libres de le chercher, mais ils n'avaient rien fait. Ils se contentaient de s'amuser avec les moldus. Le son de leur voix m'a réveillé. Depuis des années, je n'avais jamais eu l'esprit aussi clair et j'ai senti la colère monter en moi. J'ai eu envie de les attaquer pour les punir de leur déloyauté envers mon maître. Oh, j'avais une baguette magique. Et mon père avait quitté la tente pour aller libérer les moldus. Winky a eu peur en me voyant aussi en colère. Elle a usé de ses propres méthodes magiques pour m'attacher à elle. Puis elle m'a fait sortir de la tente et m'a emmené dans la forêt, loin des mange-morts. J'ai essayé de la retenir. Je voulais retourner vers le camping, je voulais montrer à ces mange-morts ce que signifiait la loyauté envers le Seigneur des Ténèbres et les punir d'en avoir tant manqué. C'est alors que je me suis servi de la baguette magique pour faire apparaître dans le ciel la marque des ténèbres. Les sorciers du ministère sont arrivés et ils ont jeté des sortilèges de stupéfaction dans tous les sens. L'un des sortilèges est passé entre les arbres là où je me trouvais avec Winky. Et le lien magique qui nous unissait a été brisé. Nous avons été stupéfixés tous les deux. Quand Winky a été découverte, mon père a su tout de suite que je devais me trouver à proximité. Il a fouillé les buissons à l'endroit où on l'avait retrouvé et il a senti mon corps, toujours caché par la cape d'invisibilité. Il a attendu que les autres membres du ministère soient partis et il m'a à nouveau soumis au sortilège de l'Impérium pour me ramener à la maison. Ensuite, il a renvoyé Winky. Elle avait commis une faute en me laissant prendre une baguette magique. C'est presque comme si elle avait permis de m'enfuir. Winky laissa échapper un long gémissement désespéré. À partir de ce moment-là, nous sommes restés seuls à la maison, mon père et moi. Et alors...
La tête de Croupeton oscilla sur son cou et ses lèvres s'étirèrent en un sourire de dément.
Alors, mon maître est venu me chercher, oui. Il est arrivé chez nous un soir, très tard, dans les bras de Queue de Verre, son serviteur. Mon maître avait appris que j'étais toujours vivant. Il avait capturé Bertha Jorkins en Albanie. Il l'avait contrainte à lui révéler beaucoup de choses, en brisant le sortilège d'amnésie infligé par mon père. Elle lui avait parlé de tout, du tournoi des trois sorciers, de Maugret, l'ancienne Aurore, qui allait enseigner à Poudlard, mais aussi de mon évasion d'Azkaban. Elle lui avait dit également que mon père me gardait prisonnier pour m'empêcher de chercher mon maître et de le rejoindre. Ainsi, mon maître a su que j'étais resté son fidèle serviteur. Oui, peut-être le plus fidèle de tous. Il a alors conçu un plan grâce aux révélations de Bertha. Il avait besoin de moi. Il est arrivé chez nous peu avant minuit. C'est mon père qui a ouvert la porte.
Le sourire s'élargit sur le visage de Croupeton comme s'il évoquait le plus beau souvenir de sa vie. Winky, trop accablé pour parler, avait légèrement écarté les doigts, laissant voir ses grands yeux marrons au regard atterré.
Les choses se sont passées très rapidement. Mon père a été aussitôt soumis au sortilège de l'Impérium par mon maître. C'était lui maintenant qui était prisonnier, lui qui se retrouvait sous contrôle. Mon maître l'a forcé à poursuivre ses activités habituelles, à se comporter comme si de rien n'était. Et j'ai été enfin libéré. Je me suis éveillé, je suis redevenu moi-même. La vie est revenue en moi après toutes ces années.
« Et qu'est-ce que Lord Voldemort vous a demandé de faire ?»
interrogea Dumbledore.
« Il m'a demandé si j'étais prêt à tout risquer pour lui. » J'y étais prêt. Mon rêve, ma seule ambition, c'était de le servir, de faire mes preuves à ses yeux.
Il m'a dit qu'il avait besoin d'un fidèle serviteur à Poudlard. Un serviteur qui guiderait Harry Potter à travers les épreuves du tournoi des trois sorciers. Sans que personne s'en rende compte, un serviteur qui veillerait sur Harry Potter et qui l'amènerait à être le premier à mettre la main sur le trophée, un trophée qui aurait été transformé en porte au loin de telle sorte que quiconque poserait la main dessus serait immédiatement transporté auprès de mon maître. Mais d'abord, vous aviez besoin d'Alastor Maugrey, dit Dumbledore, sa voix restait très calme. Mais ses yeux bleus lançaient des éclairs.
Je m'en suis occupé avec queue de verre. Nous avions préparé le polynectar à l'avance. Nous sommes allés ensemble jusque chez lui. Maugrey a résisté. Il y a eu une bagarre. Nous avons réussi à le neutraliser juste à temps. Nous l'avons bouclé dans sa propre malle magique. Après avoir pris un peu de ses cheveux pour les ajouter au polynectar... Puis j'ai bu la potion et je suis devenu le double de Maugrey. Je lui ai pris sa jambe de bois et son œil magique. Et j'étais ainsi prêt à recevoir Arthur Wesley lorsqu'il est arrivé pour s'occuper des moldus alertés par le vacarme. J'ai déplacé les poubelles dans le jardin. J'ai dit à Arthur Wesley que quelqu'un s'y était introduit et avait déclenché la réaction des poubelles magiques. Après son départ, j'ai pris les vêtements de Maugrey et ses détecteurs d'ennemis que j'ai mis dans sa malle avec lui. Puis je suis parti à Poudlard. Je l'ai gardé vivant en le soumettant au sortilège de l'Imperium pour pouvoir l'interroger. Je voulais tout savoir de son passé, de ses habitudes, afin d'être sûr que Dumbledore lui-même n'aurait aucun soupçon. En plus, j'avais besoin de ses cheveux pour la préparation du polynectar. N'était pas difficile de se procurer les autres ingrédients.
J'ai volé de la peau de serpent d'arbre dans le bureau de Rogue. Quand il m'a découvert, je lui ai simplement dit que j'avais reçu des ordres pour fouiller tout le château.
Et qu'est-ce qu'a fait Queue de Verre après l'attaque contre Maugrey ?
Demanda Dumbledore. Il est retourné s'occuper de mon maître qui était resté dans la maison de mon père. Il était également chargé de surveiller mon père.
« Mais votre père s'est enfui !»
dit Dumbledore.
« Oui. »
Au bout d'un moment, il a commencé à résister au sortilège de l'Imperium, comme je l'avais fait moi-même. Il y avait des moments où il prenait conscience de ce qui se passait, et mon maître a estimé qu'il n'était pas prudent de le laisser sortir de la maison. Il a alors forcé à envoyer ses instructions au ministère par courrier. Il l'a obligé à écrire qu'il était malade. Mais Queue de Verre s'est montré négligent. Il ne l'a pas surveillé d'assez près. Mon père a réussi à s'échapper. Mon maître s'est douté qu'il irait tout de suite à Poudlard pour tout raconter à Dumbledore. Il était prêt à avouer qu'il m'avait fait sortir d'Azkaban. Mon maître m'a fait savoir que mon père s'était enfui et m'a dit de l'arrêter à tout prix. J'ai donc attendu en me servant de la carte que j'avais prise à Harry Potter. La carte qui avait failli tout gâcher.
La carte ?
Dit précipitamment Dumbledore.
« Quelle carte ?»«
La carte de Poudlard que possédait Potter. Il avait vu mon nom s'y inscrire une nuit où j'étais dans le bureau de Rogue pour y voler d'autres ingrédients nécessaires à la fabrication du polynectar. Il a cru que c'était mon père puisque nous avons le même prénom. Cette nuit-là, je me suis arrangé pour lui prendre sa carte. Je lui ai dit que mon père détestait les mages noirs et Potter a cru qu'il fouillait le bureau de Rogue parce qu'il le soupçonnait d'en être un. Pendant une semaine, j'ai attendu l'arrivée de mon père à Poudlard. Enfin, un soir, la carte a montré qu'il avait pénétré dans le parc. J'ai aussitôt mis ma cape d'invisibilité et je suis allé à sa rencontre. Je l'ai trouvé à la lisière de la forêt et mes Potter et Crome sont arrivés.
J'ai donc attendu. Je ne pouvais attaquer Potter, mon maître avait besoin de lui. Quand il a couru chercher Dumbledore...
J'ai stupéfixé Krum. Et j'ai tué mon père.
Non !
Gémit Winky.
Maître Barty ! Maître Barty, qu'est-ce que vous dites ?
Vous avez tué votre père !
Répéta Dumbledore de la même voix calme.
Qu'est-ce que vous avez fait du corps ?
Je l'ai transporté dans la forêt et je l'ai recouvert de la cape d'invisibilité. J'avais la carte avec moi. J'ai suivi la course de Potter jusqu'au château. Il est tombé sur Rogue, puis Dumbledore est arrivé. J'ai vu ensuite Potter amener Dumbledore dans le parc. Je suis alors sorti de la forêt. Je les ai contournés. Puis je les ai rejoints en arrivant derrière eux. J'ai fait croire à Dumbledore que c'était Rogue qui m'avait dit où ils étaient. Dumbledore m'a demandé de partir à la recherche de mon père. Et je suis retourné auprès de son corps. J'ai regardé la carte et quand j'ai vu que tout le monde était parti, j'ai métamorphosé le cadavre de mon père. J'ai usé d'un sortilège pour le réduire à un os unique que j'ai enterré, caché sous ma cape d'invisibilité dans le carré de terre fraîchement retourné, devant la cabane d'Hagrid. Il y eut un grand silence ponctué simplement par les sanglots de Winky. Puis Dumbledore ajouta
« Et ce soir,
avant le dîner, j'ai proposé d'aller placer le trophée dans le labyrinthe, murmura Coupton. Je l'ai transformé en porte au loin. Et le plan de mon maître a marché. Oh. Il a retrouvé le pouvoir et me récompensera au-delà de tous mes rêves. »
Une fois de plus, son sourire de dément éclaira son visage et sa tête s'affaissa sur son